Vous écoutez France Culture.
Alors, vous semblez déplorer que le gouvernement ne réforme qu'à la marge, c'est ce que vous dites dans vos interviews, et non pas en profondeur. Dans le domaine des retraites, on voit bien ce que vous voulez dire. Effectivement, ce sont des réformes à la marge. Pouvez-vous nous citer d'autres domaines où vous souhaiteriez voir des réformes en profondeur? Et à vos yeux, en quoi consisterait-elle?
La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Réponse, monsieur le sénateur maire Gérard Collomb.
Si vous voulez, d'abord une remarque. Je parle de social-réformisme et pas de social-démocratie. Ça me semble important parce que, si vous voulez, la social-démocratie me semble datée dans le temps. La social-démocratie, c'était à l'époque où l'État-nation était tout-puissant. Or, comme le dit Zaki Laïdi, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est totalement globalisé et donc on ne peut pas faire en sorte de faire comme si nous étions encore à la belle période de l'État-nation. Et donc je crois qu'il a parfaitement raison. C'est la vraie question pour nous, c'est de savoir comment dans ce monde globalisé, où évidemment l'économie se fait de manière mondiale, où les entreprises peuvent muter d'un pays à l'autre, on peut pouvoir établir un modèle qui soit un modèle juste. Les difficultés de la France, c'est d'être capable de muter aujourd'hui pour essayer de tirer le meilleur de cette mondialisation. Alors, on dit, est-ce que c'est possible ? La Suède, par exemple, l'a fait. Donc, quelqu'un comme Philippe Aguillon, professeur d'économie à Harvard, mais en même temps qui donne des cours en Suède et qui a travaillé avec tous les pères de la réforme suédoise, montre comment ce pays avait fait comme nous, accumuler de la dette pendant très longtemps, comment il avait perdu sa compétitivité, puis comment, à un moment donné, parce qu'il s'est aperçu qu'il était dos au mur, eh bien, il a décidé de changer. Et donc, il a changé en faisant une réforme profonde de la santé, une réforme profonde des retraites. Et à partir du moment où il a évolué ainsi, il a retrouvé sa compétitivité. Et par exemple, dans son dernier livre, Repenser l'État, Philippe Aguillon montre qu'il y a une corrélation assez forte entre l'augmentation de l'assujettissement fiscal et la diminution du nombre de brevets. Et donc c'est très intéressant comme courbe parce qu'on voit que l'innovation, elle est liée aussi au fait de ne pas avoir un État omnipotent.
Mais on vous rétorquera que dans le modèle, le modèle suédois a pu se réformer, enfin la social-démocratie suédoise a pu réformer la situation en Suède parce qu'il y a un compromis patronat-syndicat très ancien, alors que chez nous, nous vivons une espèce de lutte des classes, on le voit régulièrement. Même ce titre de Libération dont on parlait tout à l'heure, le président des patrons, montre qu'aux yeux d'une bonne partie de l'opinion de gauche, en particulier vos électeurs, l'idée qu'on puisse passer ce type de compromis relève carrément de la trahison.
Gérard Collomb.
Si vous voulez, je crois qu'on tient là le véritable nœud du problème. Est-ce que cet état de fait, on peut le prendre comme quelque chose de définitif ?
Une donnée culturelle.
Ou bien, est-ce que l'on peut faire bouger les lignes ? On s'aperçoit bien dans notre pays que le fait de rester figé sur les modèles anciens, ça conduit à ce que notre pays soit recordman en matière de chômage. Que beaucoup de nos jeunes ne peuvent pas trouver de débouchés. Qu'aujourd'hui, les 4/5 des nouvelles embauches pour les jeunes se font sur du contrat précaire. Alors on a le paradoxe d'avoir, si vous voulez, des contrats de travail qui soient bétonnés totalement, sauf qu'ils sont bétonnés simplement pour un quart de ceux qui travaillent, et en particulier pour tous les jeunes, eh ben c'est la précarité la plus complète.
Insiders, donc outsiders.
Le fait d'avoir une situation extrêmement figée conduit finalement à l'exclusion.
Hubert Huertas.
Oui, on parle depuis tout à l'heure de la réforme, comme on le fait souvent, comme au fond d'une valeur absolue. Il y a une question quand même que je voudrais vous poser parce qu'elle est dans toute les préoccupations, et puis parce qu'en France, il y a des élections, et qu'aux élections, successivement, on élit la gauche, on élit la droite. Alors dites-nous, Gérard Collomb, la réforme que vous souhaitez, quelle est la différence avec la réforme qu'aurait faite Nicolas Sarkozy s'il était resté au pouvoir ?
Je pense que Nous avons un certain nombre de valeurs qui nous amènent à avoir quelques priorités. Moi, je pense, si vous voulez, que le problème aujourd'hui des injustices sociales est quelque chose d'extrêmement fort. Mais à mon avis, pour moi, aujourd'hui, la fracture sociale, c'est d'abord une fracture spatiale. Et donc, par exemple, en termes de priorité, pour moi, la priorité, si on veut réduire les injustices sociales, c'est d'essayer de casser ces fractures spatiales qui marquent notre société. Je m'explique. On voit bien aujourd'hui que si on regarde dans notre pays, les principaux problèmes sont dans l'Île-de-France. L'Île-de-France connaît des problèmes parce que les territoires sont extrêmement fracturés. Beaucoup plus qu'ils ne le sont ici dans notre agglomération. Parce que justement.
Le périphérique nous avons... à Paris reste un mur d'enceinte,
oui,
clairement.
Oui, mais pourquoi? Voilà. Eh bien, première raison, parce que d'un point de vue territorial, vous avez des coupures totales. Vous voyez ici, on a une grande agglomération, le Grand Lyon, une communauté urbaine qui regroupe à la fois des communes pauvres, des communes riches. Vous pouvez mener des politiques stratégiques globales. Dans l'Île-de-France, et c'est peut-être ce que la réforme va faire cesser, c'est le fractionnement absolu. Et vous voyez, vous avez par exemple deux communes pauvres dont on entend souvent parler, Clichy et Montfermeil. C'est une intercommunalité. Ils sont tous les deux isolés. Comment voulez-vous qu'ils traitent le problème social? Mis à part de mettre les pauvres de Clichy à Montfermeil et les pauvres de Montfermeil à Clichy, il n'y a rien à faire. Tandis qu'à Lyon, nous sommes sur une grande agglomération. Et donc, on peut mener des politiques d'équilibre social, faire que l'on fasse de la rénovation urbaine, par exemple, sur Vaux-en-Velin, sur Vénissieux, qu'on y ramène un certain nombre de couches moyennes, que sur des quartiers comme la Confluence, on construise au contraire 25% de logements sociaux. Bref, qu'on refasse de la mixité, parce que c'est à partir de là que l'on redonnera des chances. Les gens qui sont enfermés...
Mais ça, c'est votre militantisme pour le Grand Lyon.
Non.
Séparation avec le département.
Mais c'est vrai partout. Regardez, à Marseille, ce qui aujourd'hui crée la difficulté, c'est justement de ne pas avoir un territoire où l'on puisse reconstruire l'avenir. Mais où il y a une espèce de séparation entre les territoires riches et puis les territoires pauvres.
Des
c'est
ghettos.
Là,
oui, enfin,
à mon avis, le véritable
ça,
problème.
Gérard Collomb, c'est une question d'homme aussi. Vous savez très bien qu'à Marseille, par exemple, quand il s'agit de faire Marseille capitale culturelle, un nombre, ne serait-ce que pour prendre cet exemple-là, un nombre de municipalités alentour n'ont pas voulu s'agglomérer à ce projet-là en disant, au fond, qu'ils allaient être noyés sous l'image de Marseille et eux perdent leur autonomie. Il y a des réticences aussi à ces grands touts, entre guillemets.
Bien sûr,
comme...
mais il y a toujours, si vous voulez, des réticences. S'il y a des hommes politiques qui pensent qu'on peut mener de vraies politiques en étant toujours dans la satisfaction vis-à-vis de tout le monde, ils se trompent. Je crois qu'un homme politique, il doit avoir une vision, il doit avoir une pensée, et puis il doit essayer d'entraîner derrière lui sur cette pensée. Moi, quelquefois, la difficulté que j'ai par rapport à tel ou tel élément de la politique gouvernementale, c'est que j'ai l'impression qu'on soupèse toujours. On dit, ben voilà, il y a ceux-là, ils sont pour, mais là, ceux-là, ils sont contre, donc il faut faire une politique moyenne. Non, il faut dépasser. Il faut essayer de créer le mouvement, et c'est en créant le mouvement qu'on fait bouger les lignes et que la société, elle change, qu'effectivement, elle retrouve une place et que notre pays peut retrouver une place dans le monde. On voit bien aujourd'hui quand même qu'on est un peu en train de s'affaisser.
Vos détracteurs, tout de même, disent que vous faites de votre ville une ville vitrine et non une ville à vivre, que après tout, la quiétude que vous vantez aux Minguettes, elle ne serait un peu que de façade.
Je ne crois pas. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que tous les problèmes sont réglés. Hein. Je vois bien toutes les difficultés de la société. Mais quand je compare quand même avec le passé, vous souvenez que c'est ici qu'il y a eu la marche des beurs, que c'est ici qu'il y a eu les révoltes de Vaux-en-Velin. À mon avis, on en est loin aujourd'hui. Pourquoi? On n'a certes pas tout résolu, mais les gens dans les quartiers, ils voient que ça bouge, qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Alors, je peux vous citer des quartiers où aujourd'hui, les choses n'ont encore pas bougé. Par exemple, à Vaux-en-Velin, le Mas du Taureau, c'est encore un quartier très dégradé. Mais ils ont vu le mouvement à côté et ils se disent « ça va venir pour moi ». Bien évidemment qu'au niveau national, on réglera jamais tous les problèmes en un jour. Mais il faut voir effectivement qu'il y a un mouvement. Et à ce moment-là, si les gens voient que la société avance, ils sont prêts, à mon avis, à faire des sacrifices et à adhérer à une politique parce qu'ils voient qu'elle entraîne un pays.
Est-ce qu'il fallait vraiment construire un nouveau stade ? Parlons de sujets concrets. Là, en l'occurrence, ce nouveau grand stade, décidé par Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, est vécu comme quelque chose qui est tout de même là, tout à fait pharaonique. Ça sera le stade des Lumières. On sait qu'il y a de gros problèmes autour de ce stade des Lumières. Il y a le village des Fils de But, qui accueille trois familles de Roms qui ont été expulsées 6 jours plus tôt des bidonvilles de Vaux-en-Velin, qui sont à nouveau, qui ont été à nouveau dégagés manu militari, ou en tout cas on a fait couper l'eau. Le maire de a fait couper l'eau de la fontaine et les WC publics. Bon, on est quand même dans des problèmes là qui sont nationaux, certes, et que Lyon ne semble pas mieux traité que les autres.
Si vous voulez, est-ce qu'il faut un grand stade pour une grande ville ?
Il y a déjà Gerland.
On pourrait poser la même question sur la Biennale d'art contemporain et dire est-ce qu'il faut une grande Biennale pour une ville comme le Grand Lyon ? Bah, évidemment qu'il faut à la fois être culturellement puissant, imaginatif, créatif, et que dans le domaine sportif, il faut aussi avoir des images fortes. En plus, la différence entre, par exemple, cette Biennale et le Grand Stade, c'est qu'ici, c'est très largement de l'argent public, même si on essaye d'avoir des partenaires.
Et vous dites que le Grand Stade, ça ne coûte pas.
C'est Jean-Michel Aulas qui le construit. Il investit 450 millions. Vous voyez, dans une période où il y a un chômage qui est relativement fort, en ce moment, c'est 2500 personnes qui vont travailler pour la construction du Grand Stade. Et puis, comme vous le savez, on a bientôt l'Euro 2016. Ouais. Quand on verra ce Stade des Lumières, qui sera un très beau geste architectural, et qu'on l'associera à Lyon, bah depuis tous les pays du monde où on regarde ces événements, on se dira, ah oui, à Lyon, quand même, c'est une ville qui compte, c'est une ville qui a de la beauté, c'est une ville où ça doit être plutôt au bien. Donc c'est une formidable promotion de la ville, ouais, et c'est lui faire franchir à nouveau un cap. Vous savez, moi, je voyage beaucoup.
Mais les Roms, ils seront où à ce moment-là ?
Mais les Roms, nous sommes en train... Le problème des Roms, c'est un problème extrêmement difficile. Il y a 10 millions de Roms à peu près en Europe. Pensez que la solution, c'est que les 10 millions de Roms arrivent dans les capitales occidentales, en particulier dans les grandes villes françaises, c'est, à mon avis, une vue tout à fait erronée. Nous essayons de faire, par exemple, dans le Grand Lyon, que dans un village rom de Roumanie, nous prenions en charge tout l'assainissement, que nous mettions des douches, des toilettes, que nous gérions les déchets, et c'est à Tinca, dans une province à majorité rom. Et donc, je pense que si les grandes villes françaises essayaient de faire que dans les villages roms de Roumanie, dans les villages roms de Bulgarie, il y ait des politiques comme cela, des politiques de coopération forte, peut-être ne connaîtrions-nous pas les problèmes que nous avons aujourd'hui.
Brice Couturier.
Bref, qui restent chez eux, quoi.
Ben, oui, enfin, qui restent chez eux, que chacun puisse se développer. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, au bonheur de venir vivre dans des bidonvilles, dans nos grandes agglomérations. Et en particulier, si je regarde le problème des Roms, ce ne sont pas des gens... Enfin, aujourd'hui, la majorité de ceux qui viennent ici ne veulent pas d'ailleurs s'intégrer. Ce n'est pas une immigration de type classique. On voit bien, moi j'ai un de mon vice-président au logement, était président de Forum Réfugiés. Donc c'est un problème qu'il connaît par cœur, que nous connaissons d'ailleurs depuis une quinzaine d'années. On a des gens qui viennent ici pendant quelque temps, qui repartent en Roumanie, qui reviennent ici, qui repartent en Roumanie. Donc c'est pas un type d'immigration classique où on peut insérer, donc ça demande un traitement approprié et un traitement évidemment de coopération entre le niveau local, le niveau national et le niveau européen.
Hubert Huertas.
Hier, les manifestations sur les retraites n'ont pas été très importantes. À votre avis, est-ce parce que François Hollande a été habile ou bien François Hollande a été tellement prudent qu'il n'a pas fait de réforme ?
Je crois surtout que les Français, maintenant, dans leur majorité, pensent qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils voient bien que la durée de la vie s'allonge Et donc qu'à un moment donné, on ne peut pas être simplement sur la préservation de ce qui est aujourd'hui. Or après, ça leur fait peur, le changement en même temps. Ils ont à la fois conscience qu'il faut bouger et en même temps peur de ce changement.
Mais est-ce que le problème a été résolu ?
Non, le problème n'a pas été résolu. Moi, j'ai toujours dit, puisqu'on parlait tout à l'heure des économistes avec qui je travaille, nous, on regarde d'assez près ce qu'est aujourd'hui le modèle suédois, c'est-à-dire des retraites par points qui permettent de savoir un peu où l'on en est dans son évolution de carrière, qui s'adapte régulièrement et donc sans fracture totale à l'allongement de la durée de la vie, et puis qui donne une liberté de manœuvre aux individus. C'est-à-dire que le problème de la retraite, il ne se pose pas de la même manière pour tout le monde. Si vous êtes en bonne santé, en mauvaise santé, si vous êtes dans telle ou telle situation familiale, et donc en Suède, vous avez une capacité de choix qui n'existe pas dans notre pays. C'est sur ce type de réforme en profondeur qu'il faudrait aller.
On entend encore là la fameuse distance entre le maire de Lyon et le parti auquel il appartient. Vous êtes très critique sur cette question des retraites.
Si vous voulez, j'essaye par rapport à ça, c'est pas de la critique pour la critique. J'essaye d'indiquer des directions. Et je m'aperçois petit à petit, si vous m'aviez interrogé il y a 2 ans quand le Parti Socialiste est dans l'opposition, j'aurais été un marginal du Parti Socialiste. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, petit à petit, la distance finalement diminue.
Bon, alors plutôt que de parcourir l'ensemble des dossiers sur lesquels vous avez de la distance, est-ce qu'il y a un dossier sur lequel vous êtes enthousiaste de la gestion de François Hollande et lequel ?
Gérard Collomb, invité les matins, sénateur maire de Lyon.
Mais si vous voulez, je m'aperçois finalement que la loi de décentralisation, dont on disait qu'elle allait être nulle, vous vous souvenez, il y a un moment donné, on ne savait même pas, le gouvernement ne savait pas s'il allait finalement la maintenir au Sénat. Et je m'aperçois qu'elle est en train de porter ses fruits. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Marseille, et vous disiez les villes périphériques ne voulaient même pas venir faire partie
de la
capitale européenne de la culture. Ben là, aujourd'hui, ils vont être dans la même métropole, et donc ils vont être obligés, finalement, de trouver ensemble un certain nombre de compromis, et c'est quelque chose qui me semble bien. Paris ne voulait pas bouger, et on est en train de faire le Grand Paris, c'est-à-dire qu'on est en train de passer d'un modèle qui était totalement, à mon avis, daté, à un modèle qui pourrait prendre en compte les problèmes économiques et sociaux qui se posent en Île-de-France.
Mais le millefeuille vous convient ?
Non, il ne me convient pas, puisque moi, ici, par exemple, la grande réforme que l'on a faite, c'est sur le territoire de la communauté urbaine de supprimer le conseil général et de construire ce qu'on appelle la métropole.
Oui, et ça un peu à la barbe de son président du conseil général.
Non, pas du tout. Kéran, on a fait la réforme. M. Kéran est président du conseil régional. Monsieur Mercier.
Et avec M. Mercier, qui l'a fait de bonne grâce.
Oui, bien sûr, on l'a fait ensemble. Oui. Et nous avons proposé la réforme ensemble à François Hollande et à Jean-Marc Ayrault lorsqu'ils étaient venus à Lyon pour le sommet franco-italien. On leur a dit voilà ce qu'on fait, ce qu'on peut avancer. Ils nous ont dit oui, on a avancé et aujourd'hui c'est fait.
Alors sur cette question justement du Grand Lyon et de cette, au fond, notion de ce que serait un Grand Lyon, vous avez peut-être vu paraître, pas encore, mais il sort demain, mais vous avez sans doute entendu parler du prochain livre de Gilbert Vaudet, enseignant à la retraite du lycée du Parc à Lyon, qui a écrit un très beau livre, Le Nom de Lyon, qui sort demain chez Christian Bourgois. Et dans ce livre, il se promène dans le temps et l'espace de cette ville, donc où il est né et a vécu. Antoine Beauchamp l'a joint au téléphone pour savoir comment on pouvait décrire les dynamiques actuelles de Lyon. Gilbert Vaudet.
C'est Brodel qui dit de Lyon que ce sont les faits du lointain qui lui sont favorables. C'est une ville internationale dans sa vocation. C'est une ville qui est jumelée avec Milan, Francfort, Birmingham, Canton. C'est-à-dire ses ambitions de ce point de vue-là. Et je crois que ça correspond véritablement à sa vocation. Et en même temps, c'est une ville qui n'a pas toujours l'air de croire absolument à cette vocation. Il y a un retrait un peu étrange, il y a un vrai dynamisme et une sorte presque de retrait atmosphérique de la ville. Je crois que la question qui se pose à Lyon et qui se pose à toutes les villes en France et en Europe, toutes les villes un peu anciennes, c'est au fond qu'on ne sait pas bien définir la forme future qui les guette. C'est-à-dire, elles sont entourées de banlieues, ces banlieues les regardent, elles regardent leurs banlieues, elles essayent de percevoir la forme qu'elles pourraient prendre, et elles la voient mal. Et on ne sait pas toujours très très bien penser ces choses-là.
Gilbert Vaudet, Le Nom de Lyon, qui sort demain, donc c'est aux éditions Christian Bourgois, Gérard Collomb.
Ah ben d'abord, moi, je suis très heureux qu'il ait cité Brodel, parce que c'est une des sources d'inspiration de Lyon. Oui, il a totalement raison. Les faits qui se penchent sur Lyon lui sont étrangères, disait Brodel. Oui. Ça veut dire que Lyon n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle sait s'ouvrir à l'international. Vous voyez, la grande époque de Lyon, ça a d'abord été le XVIe siècle, où effectivement Lyon, avec le commerce de la soie, s'ouvrait sur le monde, commerçait avec l'Asie, avait des banquiers italiens qui finançaient son commerce. Le Vieux Lyon aujourd'hui, ce sont encore les hôtels que faisaient construire ces banquiers italiens à Lyon. Ça a été ensuite la grande époque industrielle de Lyon. Et puis je crois qu'aujourd'hui c'est le renouveau de Lyon. Si vous allez dans cette ville, vous verrez d'abord que c'est une ville de la jeunesse. Quand on disait, vous le disiez au début de votre émission, souvent on a pensé Lyon comme la ville bourgeoise un peu repliée sur elle-même. Vous verrez dans les rues de Lyon une jeunesse extraordinaire, composée de beaucoup d'étudiants, 120 000 étudiants ici, 20 000 étudiants étrangers dans Lyon. Ça veut dire que c'est une ville qui devient de plus en plus ouverte sur le monde, qui en prend toutes les richesses, toute l'énergie, qui voit bien justement qu'il faut être en mouvement parce qu'elle a ce contact, cette proximité avec le pays où l'avenir s'invente.
Brice Couturier.
Oui, pour revenir au sujet de ce qui vous oppose au gouvernement, à François Hollande, il y a le domaine...
Je ne veux pas non plus qu'on retienne de l'émission
que vous faites, que vous opposez.
Enfin,
on le retenait avant l'émission.
Gérard Collomb, il y a le domaine des idées et il y a le domaine de l'action politique. Il y a le domaine des think tanks, ce que Max Weber appelait l'éthique de la conviction, et puis il y a l'éthique de la responsabilité. L'action gouvernementale. Aujourd'hui, François Hollande, on le sait, c'est un homme de la synthèse. Quand il était au Parti Socialiste, qu'il le dirigeait, c'était son art majeur. Aujourd'hui, il a un gouvernement de synthèse. Il est bien obligé de faire avec des écologistes, des courants sociaux-démocrates, d'autres plus réformistes, d'autres qui le sont moins. Si demain, François Hollande avait besoin de vous et vous proposait un ministère important, est-ce que vous accepteriez de mettre vos idées en pratique et de quitter votre bonne ville de Lyon ?
Gérard Collomb.
Pour moi, la priorité, c'est Lyon.
D'abord, oui, ça, on l'a compris, il y a les élections municipales qui arrivent. Répondez donc à la question, Gérard.
D'abord, pour en faire un laboratoire, pour essayer de montrer si, oui ou non, les idées que je développe sont des idées qui marchent. La performance économique basée sur l'innovation, ça marche. La réduction des inégalités, ça marche. La prise en compte de l'écologie pensée comme la réponse à des problèmes évidemment fondamentaux comme les émissions de gaz à effet de serre, au travers de ce qu'on peut faire sur ce qu'on appelle la ville intelligente, le développement des smart grids, etc., ça marche. Ben voilà, j'essaye de montrer un modèle.
Lyon vitrine.
Vitrine. Et à un moment donné, je pense que ça inspirera un certain nombre de ministres.
Donc plutôt la contagion que la décision. Plutôt un effet de contagion à partir de Lyon qu'aller à Paris pour prendre des décisions et les appliquer à l'ensemble de la nation.
Vous savez,
vous quitteriez pas Lyon.
Tout à l'heure.
Donc vous dites non à François Hollande.
Tout à l'heure, vous avez posé une question sur le cumul des mandats. Il fut un temps où il y avait des grands ministres qui étaient en même temps maires de ville. Le premier, c'était Pierre Mauroy, qui était à la fois un grand Premier ministre et un grand maire de sa ville. François Hollande n'a pas souhaité cela. Donc, moi, cela me navre. Si un jour, il revient sur sa décision, alors pourquoi pas ?
Mais si c'est où, c'est
maire de Lyon. Ah, si c'est où, c'est là.
C'est là.
Voilà.
Donc, d'avance, a priori, on ne vous verra pas dans les prochaines années au gouvernement parce que, à partir de 2017, la loi sur le cumul va s'appliquer.
Ben voilà.
Bon. Monsieur le ministre, ce sera pour une autre vie.
Dans un instant, la séquence Ce qui nous arrive, la séquence musicale, la séquence sur la toile, et la séquence culturelle avec Mathieu Conquet, Xavier Delaporte et Sébastien Le Foll. Un mot tout de même, alors sans vouloir jouer les mauvais augures, sur la Biennale, il en sera largement question tout à l'heure dans le détail, sur la question artistique, hein, je le disais, dans la grande table de Caroline Brouet avec Gunnar Kvaran, qui est le commissaire de la Biennale de Lyon, l'artiste Fabrice Hibert. Il faut savoir qu'il y a de très grandes pointures, comme de jeunes artistes pas connus, qui sont ici mélangés par ce commissaire, hein, ça va de Fabrice Hibert à Yoko Ono, jusqu'à, en revanche, des artistes beaucoup moins connus qui font des œuvres absolument remarquables ici. Ça, on l'a pu le constater hier. Enfin, on n'aime pas tout, mais enfin, il y a vraiment des choses très bien. Et il y a quand même beaucoup de, si je puis me permettre, monsieur le maire, il y a beaucoup de sexe en érection quand même. Vous allez avoir la mouette sur le dos. Ah oui, il y en a moins deux, ils sont, j'allais dire, grandeur nature. Non, ils sont très grands. Ils sont très grands. Il y en a un qui va faire une polémique.
C'est l'ambition métropolitaine de Lyon. Ouais. Non, si vous voulez, lorsque vous organisez... Non,
parce que je sais que vous ne voulez pas parler, pour faire de publicité, des groupuscules d'extrême droite de la ville. Lorsque... Mais vous allez avoir forcément affaire avec, en tout cas, au moins la mouette.
Lorsque vous organisez des biennales d'art contemporain, vous prenez toujours un risque, parce qu'évidemment, on ne censure pas la créativité des artistes. Et donc, vous vous exposez à la critique sociale, à la provocation, évidemment, ça fait partie des biennales d'art contemporain. Il faut les assumer dans leur globalité.
Voilà, comme la grosse façade orange ici à Confluence de c'est Jacob McFarlane qui a fait, ouais, je crois, ce bâtiment.
Ah ben ça, partout, voilà. Ça,
il faut quand même que ça se voit. Hein.
Ah, ça se voit, ouais. Oui.
Et là, ça se voit.
Mais si vous voulez, par exemple, c'est intéressant ce que vous dites sur Jacob et McFarlane. Vous voyez, on a essayé sur ces docks des rives de Saône à la fois de conserver des bâtiments anciens, de les remettre en scène, puis de mettre des bâtiments très contemporains. Trouver l'avenir en s'appuyant sur le passé, c'est ce qu'on essaye peut-être de faire à Lyon.
À 8h46, nous retrouvons pour la dernière partie des matins Xavier Delaporte, Mathieu Conquet et Sébastien Le Foll.
France Culture. Ce qui nous arrive.
Ce qui nous arrive sur la toile avec vous, Xavier Delaporte, à Paris. Et vous nous proposez, mais depuis Paris, vous donc, une balade dans Lyon.
Eh oui, Marc, vous savez comme c'est agréable de se promener dans Lyon. Par exemple, pour joindre deux lieux de la Biennale, vous sortez du musée des Beaux-Arts, vous prenez la rue Joseph Serlin, puis tout de suite, sur la droite, l'avenue de la République, vous la descendez jusqu'à la chambre de commerce, puis vous tournez à droite, rue Grenette, puis vous rejoignez la rue du président Édouard Herriot, et assez rapidement, vous arrivez à la place Bellecour. Ça vous prend une petite quinzaine de minutes à tout casser, c'est beau. Est-ce que vous savez que pendant cette petite quinzaine de minutes, vous avez croisé une quinzaine de caméras de vidéosurveillance, placée là et administrée par la ville de Lyon. Autrement dit, vous avez été filmé pendant la quasi-totalité de votre balade. Alors, j'avoue être assez troublé par les caméras de vidéosurveillance. Et à Lyon, il y en a beaucoup, 300 d'ici la fin 2013, si on en croit les objectifs que s'était fixé Gérard Collomb. Et les caméras de surveillance, c'est un objet technologique qui me trouble. Alors, d'une part, elles sont irréprochables. Bon, la raison de leur installation est légitime, protéger les populations. D'ailleurs, on ne dit plus vidéosurveillance, on dit vidéoprotection, ça change beaucoup. L'installation se fait dans un cadre défini par la loi depuis 1995 sous l'autorité des préfets. Tout est fait pour que leur usage soit transparent. Par exemple, à Lyon, il existe une charte éthique de la vidéoprotection. Il existe aussi un collège d'éthique chargé de vérifier que rien n'est attentatoire aux libertés. Il existe aussi des procédures techniques qui permettent de garantir ces libertés. Par exemple, les intérieurs sont floutés par un logiciel. Les images enregistrées ne sont gardées que 15 jours à Lyon, alors que le délai légal, c'est d'un mois. Mais alors, sur le plan de l'efficacité, c'est plus compliqué. Difficile de trouver une étude ou un rapport officiel qui conclut définitivement à l'utilité de ces caméras. Même quand la Cour des comptes y est allée de son avis en 2011, elle a statué que l'effet des caméras était quasi invisible en termes d'élucidation des faits de délinquance. Alors, les rapports les plus favorables, ils parlent d'effets faibles ou marginaux. Et puis, en termes de prévention, c'est encore plus compliqué à déterminer. C'est donc qu'il y a dans le recours à la vidéosurveillance quelque chose de l'ordre de l'acte de foi, ce qui est toujours étrange en termes de technologie. Mais surtout, comment ça marche vraiment dans les salles où les opérateurs sont face aux écrans? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qui ils regardent? En fonction de quels critères? Une étude menée par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France montre que la vidéosurveillance, c'est souvent discontinue. C'est-à-dire les caméras sont parfois de mauvaise qualité, en panne, puis elles tournent à vide, faute d'opérateurs pour les regarder. Les données sont écrasées ou peuvent être écrasées rapidement, faute de mémoire, et donc inutile pour la police. Cette étude montre surtout qu'il n'y a pas une vidéosurveillance en France, mais des vidéosurveillances. Selon l'investissement qu'on sent la municipalité, selon le matériel et les logiciels, selon aussi le zèle du préfet à ce que le cadre légal soit respecté. Là, on n'est plus seulement dans l'acte de foi, mais dans la confiance. Confiance suprême. Et à chaque petit dôme que je croise dans les rues Lyon ou d'ailleurs, hein, à chaque fois que je confie à une caméra de vidéosurveillance ma petite image, inintéressante certes, mais c'est mon image, c'est mon corps, c'est mon visage, je me demande si cette confiance est méritée. Et l'œil noir de la caméra ne me répond jamais.
La chronique de Xavier Delaporte, monsieur le maire, alors, on est surveillé.
D'abord, votre reporter a remarqué justement que nous avions mis à Lyon un collège d'éthique. Parce que nous voulions qu'il n'y ait aucun problème de caractère attentatoire aux libertés. On a mis à la tête de ce collège d'éthique l'ancien président de la cour d'appel du tribunal administratif. Donc quelqu'un de très respecté qui est chargé de recueillir l'ensemble des plaintes qui pourraient être faites par le public. Depuis maintenant 7, 8 ans, 10 ans, que nous développons la vidéoprotection, comme il souligne, nous n'avons aucune plainte. Et voyez, sur l'efficacité technique, vous savez que le 8 décembre, nous organisons la fête des Lumières, 4 millions de personnes. Si nous pouvons le faire, c'est parce que nous avons ce système qui évite toute panique dans l'assistance.